ici.
ICI.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici soutient la musique locale. Écoutez, voici l'un de nos coups de cœur.
Timéo, le chasseur.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brumes.
Révélé par The Voice Kids, Timéo Béas est un jeune chanteur originaire de Cran. L'interprète de Canaillou a aussi su séduire les studios Disney en prêtant sa voix au personnage de Mufasa, le roi lion.
Marchait devant dans les roseaux.
Pour l'un de ses enregistrements, il rend hommage à Michel Delpech. C'était Timéo.
Un coup de cœur, ici Mayenne.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Provence.
Tout, vous saurez tout sur le...
C'est
le bicou, voilà, le bicouli, le bicoulé, le bicoulou, effectivement. Bicoulou, c'était le motus à trouver dimanche sur motus.fr. Donc, on va pas tourner autour du pot, ni autour du bicouli. Le mot bicouli peut désigner, effectivement, le sexe d'un petit garçon, le petit oiseau, c'est le petit oiseau va sortir.
De toutes les couleurs.
Exactement.
Bico, ça.
Voilà. Et par extension, un sexe tout petit. Enfin, non, justement, pas par extension, parce que un bicouli en extension, pour le coup, ce serait plus un bicouli, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Un bicouli, c'est donc une kikounette, ou une kikette, ou un sexe tout rikiki.
Ouais.
Une rikiquette, si vous préférez.
Une rikiquette.
Voilà, il y a des bicoulis célèbres, comme celui du mannequin pisse, hein, vous savez, la fameuse statuette de Bruxelles,
hein, ouais,
qui représente un petit garçon, le mannequin, qui pisse dans une fontaine. Mm-hmm. Mais notre bicouli est bien d'origine provençale. L'oubicou, c'est le chevreau, une petite bique, une biquette, si vous voulez. Donc, un bicouli, c'est encore plus petit qu'une biquette, voilà. Mais c'est aussi un terme affectueux qui peut désigner un simple baiser. Hein, si quelqu'un vous dit « viens me faire le bicou », n'y voyez pas une proposition érotique, c'est juste un bisou,
ah,
on peut dire ça en famille, voilà, ouais, c'est tout tranquille.
C'est pour ça que j'ai eu des problèmes la dernière fois. Alors.
Okay. Avec ouais. Vous allez nous raconter tout ça, Philippe. Mais si on va au bout de la logique et au bout du bicouli,
ouais,
que trouve-t-on au bout du compte et du bicouli? Le bicou. Et c'est là qu'il faut être précis, car si les termes bicou et bicouli peuvent être synonymes, on peut ouais, aussi, d'un point de vue anatomique, hein, faire la différence entre le bicouli et le bicou qui en est l'extrémité. Car ce n'est pas tout. On utilise aussi les mots bicouli ou bicou pour désigner un petit truc, un petit machin, un petit objet qui dépasse. Vous allez me dire, oui, on est dans le même ordre d'idées, mais non, je ne parle pas là du sexe. Un petit, comment on dit, un petit bitonio.
Ah,
voilà,
oui,
hein, vous savez, voilà. Donc quand on ne sait pas comment nommer un truc, là, un machin, une excroissance qui dépasse, on va dire appuie sur le bitonio, ben on peut dire appuie sur le bicouli.
D'accord.
Ou appuie sur le bicou. Ouais, c'est un peu l'équivalent de chichou ou pec, où on a plein de mots comme ça. Mais de ne pas confondre le bicou avec le bijou. Hein. Au Louvre, les voleurs n'ont pas dérobé des bicous, mais des bijoux. Hein. Et on en reparle demain d'ailleurs, des bicous de famille. Des bijoux de famille. Enfin, bicou et bicouli sont des mots très affectueux qu'on emploie à l'encontre d'un ami ou d'un enfant. Thierry Boffa, qu'on a longtemps entendu sur notre antenne, mais
oui,
aussi André de Roca, m'appelait souvent comme ça. Oh, bicou,
oui,
ça va,
bien,
vous vous rappelez,
oui,
c'était son mot à Thierry. Et donc, mon bicouli aussi. On a dans Les Aventuriers du Chichi Perdu du groupe Quartier Nord, Madame Pagalenti qui dit mon beau bicouli, comme tu nous as manqué. Et ben, en parlant de chichi, vous voyez bien que le mot bicouli a bien d'autres sens et il faut donc bien le manier et savoir par quel bout le prendre. Je parle du mot, bien sûr.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
Le vin, ça prend du temps. 18 mois en général en Bourgogne avant d'être mis en bouteille. En ce moment, le millésime 2024 finit son élevage en fût comme à Beaune chez Philippe Pacalet. C'est dans le calme de ses caves qu'il nous raconte les notes aromatiques de son Gevrey 2024.
Donc là, on a changé de cave. On est plutôt sur du 2024, c'est ça?
On est sur des 2024 rouges.
Attendez, vous voulez que je prenne votre micro? C'est peut-être plus pratique. Hop, voilà. Donc là, vous avez ouvert le tonneau. Vous plongez la
pipette. on se retrouve avec un misime classique. C'est pour ça qu'on voit une belle robe rubis, Gevrey Village. C'est quatre parcelles différentes. Gevrey, c'est toujours beaucoup de fruits. Hein. Ça fait un vin assez gourmand et toujours beaucoup de structure. Il y a les deux. Si on prend 10 personnes, toujours 7 qui l'apprécient. On va les soutirer pour les mettre en bouteille l'année prochaine.
Quand vous dites préparer, ça veut dire que...
On a mis un bouchon.
Ça, donc là, c'est le bouchon qui est à l'intérieur du...
Voilà, après on met le robinet.
D'accord.
Parce qu'on n'utilise pas de pompe, on fait par gravité. Ça évite d'aspirer le vin, c'est moins stressant.
C'est plus doux.
Voilà.
Ah, on peut stresser des vins.
Ouais, c'est de la matière vivante. Ouais. C'est comme nous, ça évolue. C'est un peu à l'image de l'homme, le vin. C'est un produit culturel. Il y a beaucoup de points communs.
Donc il faut lui apporter beaucoup de douceur. Voilà.
Même si la forme du vin, là, c'est le tonneau après la bouteille. Nous, on a un squelette, c'est différent. Mais c'est une construction différente.
Oui, mais nous, on se trimballe avec le même squelette toute la vie.
Voilà.
Eux, ils changent de squelette quand même.
Mais on ne grandit plus à partir de 21 ans, normalement.
Non.
Alors que les vins, dès qu'on les a mis en bouteille, ils grandissent, mais différemment, parce qu'ils sont aussi coincés dans cette bouteille.
C'est pour ça qu'on a cette forme de tonneau, finalement, parce qu'on aurait pu mettre ça dans des cubes, finalement. Enfin...
C'est un œuf coupé au deux bouts. L'œuf sous la terre, la gestation, enfin, il y a toujours une jolie philosophie avec tout ça, mais c'est... Hein, il y a un sédiment qui se forme au fond du tonneau, qui s'appelle l'ali, donc quand vous remuez le tonneau, bah, ça remélange, ça dynamise, quoi. C'est un peu comme un bébé avec son placenta, quoi. Il y a une naissance. Et ça protège le vin, donc ça dure un certain temps. C'est pour ça qu'on doit soutirer. J'ai un rôle protecteur et nourricier. C'est bien fait, quand même.
Philippe Pacalé à Beaune est le papa de 50 000 bébés, quand même. Bouteilles par an, c'est pas rien. Et ça fait partie de la fierté de notre région.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Poitou.
Et direction Poitiers, dans la Grand Rue, pour découvrir aujourd'hui une boutique artisanale, une fabrication artisanale. Depuis près de 150 ans, on fabrique des parapluies à la main, parapluies artisanaux. C'est les parapluies François que je vous présente aujourd'hui. Suivez-moi. Et pour cette première étape, je vais rejoindre Pierre qui va m'expliquer déjà l'une des premières étapes de fabrication du parapluie. Bonjour Pierre.
Bonjour, voilà, bien écoutez, voilà, je vais donc vous faire voir un petit peu comment le parapluie se construit. Voilà, alors ça commence d'abord par la coupe. Hein. Là, je vais couper un parapluie. Alors d'abord, il y a un traçage à faire. On utilise un patron. Voilà, maintenant nous prenons les ciseaux. Alors quand il y a une certaine épaisseur importante, nous coupons avec un ciseau électrique. Bien sûr, le geste doit être très précis. Hein.
Oui, il faut pas se rater, quoi.
Non, non, non. Alors, chaque parapluie se compose de 8 pointes, c'est-à-dire de 8 épaisseurs. Hein, voilà, parce que ça correspond donc aux 8 baleines que l'on va monter sur le parapluie.
Allez, je vais voir Emma pour la deuxième partie, maintenant. On va coudre les différentes parties, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. En fait, là, on va d'abord, avant de coudre la totalité des 8 triangles pour former la toile complète, on va d'abord réaliser un ourlet qui va être vraiment la finition de tout le tour en fait des extrémités du parapluie pour éviter l'usure. Voilà.
Et là, en fait, vous avez créé l'ourlet, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Le tissu en fait vient se replier sur lui-même pour former une belle finition et éviter que le tissu se détisse au cours du temps.
On va maintenant coudre la toile, c'est ça Lilian ?
C'est ça, on va rassembler tous les petits, tous les morceaux de tissu entre eux pour terminer la toile du parapluie avant de la monter sur le mécanisme du parapluie sur les autres machines qui sont derrière nous.
Là, étape suivante, la toile est finie. Maintenant, il faut l'installer sur le mécanisme.
Exactement. Donc, pour l'installer sur le mécanisme, il y a la première étape avec cette vieille machine d'Urcop de 1960 qui sert pour coudre les aiguillettes, donc ce qui va au bout de la baleine, et également par le point d'arrêt. Et ça, ce sera l'autre machine derrière nous. On a cousu nos 8 aiguillettes. Pierre va faire un petit point de couture entre la baleine et la couture de la toile.
Oui, c'est ça, effectivement. Maintenant, je vais attacher le tissu sur la baleine de parapluie.
Et donc là, ça y est, Lilian vient de terminer la conception du parapluie. Il reste allez, 2-3 petites finitions, mais là, grosso modo, il est fini.
C'est ça, il reste juste quelques petites étapes. On va mettre la plaque en haut du mât. On va venir poser le bouton pression au niveau du galon. Et puis bah, après, la dernière étape finale avant la mise en vente, c'est le repassage. Et on n'aura plus qu'à le plier, et là, il sera prêt pour la vente.
Ici,
local, musique et bonne humeur.
Mmh. j'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en gros star. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici mène.
Laetitia Ribeiro est biographe familiale. Pourriez-vous l'accueillir chez vous et lui raconter votre vie ? Laetitia Ribeiro, légende ici.
Bonjour, je m'appelle Laetitia Ribeiro, j'ai 50 ans, je suis née au Mans et j'ai grandi à Parigny-l'Évêque. Ma particularité, je suis biographe familiale, j'écris des récits de vie pour les personnes qui souhaitent laisser une trace, et donc je suis biographe à Encre d'Humanité.
Écoutez-moi.
Qu'est-ce qu'être biographe familiale ? Eh bien, c'est raconter des histoires de vie, accompagner des personnes en fait qui ont le souhait de laisser une trace, de témoigner de leur histoire, soit pour eux, soit pour leurs enfants. En fait, léguer un petit peu leur récit de façon à ce qu'ils se perpétuent dans les générations à venir. Comment est-ce que je procède ? Donc, la plupart du temps, je me rends au domicile des personnes. C'est avant tout une rencontre humaine et mon travail, c'est à la fois de les guider dans le récit de leur vie, mais aussi de comprendre et de percevoir les émotions, les silences, pour pouvoir écrire tout cela. Qu'est-ce que l'écriture permet ? Alors, au-delà, effectivement, du récit, l'écriture, elle permet parfois de s'alléger. Hein. J'ai aussi cette particularité d'être biographe accompagnante. L'écriture permet parfois de témoigner, mais aussi de s'alléger. L'écriture, elle permet de revisiter son histoire, faire un peu parfois le bilan ou l'avancée. Elle peut permettre une avancée, en tout cas, sur ce qui a été vécu. Si j'ai fait pleurer des gens, ce n'est pas moi qui fais pleurer les gens. Ce sont souvent leur histoire et l'émotion que ça peut dégager, effectivement, de raconter son histoire, mais c'est souvent aussi à la lecture de ce que j'ai pu écrire, en fait. Les gens disent souvent que c'est particulier de se relire, de se voir écrire, et que c'est une expérience qui est à la fois extrêmement émouvante et à la fois, c'est singulier. Les personnes, à la fois, ont l'impression d'avoir écrit leur récit, puisque l'idée, c'est vraiment de les rencontrer et de pouvoir, effectivement, écrire au plus près de ce qu'ils sont. Donc ça, chaque fois, en fait, les gens me disent que c'est un cadeau émouvant, mais un cadeau réciproque surtout.
C'est ma vie.
Qu'on est bien en Sarthe, je suis revenue sur mes terres natales, donc c'est que c'était important et qu'on y vit bien. Pour moi, c'est important, que ce soit dans la biographie ou au fond d'être revenue en Sarthe. Pour moi, il y a quelque chose de l'histoire de ses racines, de savoir d'où on vient, de savoir où l'on va. Oui, on y vit bien en Sarthe. Voilà, c'était Laetitia Ribeiro, biographe à Encre d'Humanité. J'ai été très heureuse de vous parler de la biographie, de la découverte de la biographie. Et comme j'ai coutume de dire, il il faut écrire son histoire puisque chaque histoire mérite son encre.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Complètement gaga.
De vos parler d'ici.
Complètement gaga avec Olivier Glin. Alors bonjour Olivier, on parle d'eau aujourd'hui ?
Vouille, sagasouille. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir des mots comme on en trouve nulle part ailleurs. Chez nous, dans le parler gaga, on a des termes pour tout. Et pour patauger dans l'eau ou la gadoue, on n'a pas un mot, mais trois. Bassouiller, gabouiller et gassouiller. Oui, trois verbes pour exprimer le bonheur de tripoter de la flotte ou de barboter dans la boue liquide. Et comme on est généreux hein, quand même, on ne s'est pas arrêté là. Et on a même des noms qui vont avec. On appelle ça des déverbaux, car ces noms viennent des verbes. On a la bassouille, la gassouille et la gabouille. Ces mots sont employés dans la Loire, mais également dans le Lyonnais et le Beaujolais, et puis de façon plus générale dans une bonne partie de la région Rhône-Alpes. Voici une maxime qui nous est donnée par Jean-Baptiste Martin. T'as beau gabouiller la bassouille, t'en feras pas rien des œufs à la neige. La plupart du temps, c'est juste remuer l'eau, éclabousser, patauger. Bref, faire ce que les mamans, elles y trouvent à redire quand les enfants reviennent avec le pantalon trempé. Et s'il y a des gens qui aiment bien gassouiller, ce sont bien les enfants. Les matrues, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour leur faire plaisir. Tu sors une petite bassine, tu mets un peu d'eau au fond et c'est parti pour la gassouille. C'est que ça peut gassouiller jusqu'à l'évaporation totale. La gassouille, c'est révélateur de la personnalité profonde des gens. Hein. Comme le dit l'adage, dans la gassouille, il y a deux sortes de gens. Ceux et ceux qui y tombent et ceux et celles qui t'y poussent. Bon, la nage n'existait pas hein, jusqu'à aujourd'hui, mais mieux vaut tard que jamais. Ou alors celui-ci, d'adage. Quand t'as les pieds dans la gabouille, c'est pas le moment de chercher tes pantoufles. Et oui, chez nous, la gassouille, c'est souvent un souvenir d'enfance. Mais entre nous, on est tous encore un peu des garagnas. Hein. On y aime bien parfois encore. Quel plaisir de gassouiller un peu.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
Taureau, je crois que c'est du 21. Ah non, je sais plus.
Savez-vous ce que c'est que l'astrologie ?
C'est les astronautes qui vont dans l'espace.
C'est l'espace et les constellations, le placement des étoiles.
Vous êtes de quel signe ?
Verseau. Moi, je crois que je suis taureau.
Moi, je suis taureau.
Ah si, je suis taureau.
Comment on a découvert que vous étiez de ce signe-là ? C'est grâce à quoi ?
Au mois de l'année, par exemple, le taureau, je crois que c'est du 21 mars jusqu'au 20... Ah non, je sais plus.
Moi, j'avais un petit carnet de jeu et il y avait un jeu. Si on réussit le jeu, on savait on était de quel signe.
C'est quand même magique, hein ?
Waouh, c'est fabuleux ! Et pourquoi on fait ça ?
Je sais un peu, Verseau, c'est de quel temps à quel temps ? C'est de la fin de janvier au début de février. Et moi, vu que je suis née le 31 janvier, je suis Verseau, du coup. Ça s'appelle des signes astrologiques. Et l'astrologie, du coup, c'est des signes astrologiques.
T'es taureau, ça veut dire que tu rentres, t'as besoin d'une étable ?
Non, c'est sur les qualités. C'est quand on est, par exemple, taureau, dans le mois où on est taureau, on n'est pas comme d'habitude.
Et vous êtes comment, messieurs les taureaux ?
J'en sais rien.
Il possède certainement des qualités, mais voilà. Lesquelles ?
Je sais pas, moi, je pense de l'émotion, beaucoup, beaucoup d'émotions. Après, je sais pas.
Comment je peux te montrer que je peux être fort et sensible, noble et affectueux ?
Les taureaux, par exemple, ce sont des personnes qui sont nées pendant les mois de taureau.
C'est logique.
Quand on est taureau, on se contrarie plus, on est plus vexé, alors que d'habitude, non.
Taureau, vu que les taureaux, c'est costaud, je pense que les taureaux, ils sont costauds. Enfin, ceux qui ont les signes astrologiques taureaux, ils sont peut-être très forts.
Et les balances, alors ?
Quand on était le signe astrologique balance, c'est dire que quand il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, on va le balancer.
Vous écoutez ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Salut ici, c'est Mentissa. On écoute ensemble ma nouvelle chanson, la chanson d'amour.
Un coup de cœur ici.
Un jour je t'écrirai une chanson d'amour qui dirait tes yeux verts au lever du jour. Je t'écrirai et sans faire de détour, des contours. Un jour je t'écrirai, t'écrirai. Il faudra que j'admette que j'ai peur que tu partes, que tu files comme une comète. J'ai beau relire les cartes, j'ai cette idée dans la tête qui m'inquiète. Et je ne voudrais surtout pas une vie, de recommencer à l'infini. Moi je sais pas si je suis naïve au vieux jeu, mais à vrai dire ça m'importe peu. Depuis toujours c'est une évidence que j'ai besoin d'avancer dans la confiance. L'habitude n'éteint pas l'étincelle, au contraire ça donne des ailes. Ton amour m'a porté, me libère. Et je ne voudrais surtout pas
sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Champagne-Ardenne.
Bonjour, Margot Ferté.
Bonjour.
Décrivez-nous ce lieu-là, le poulailler dans lequel on se trouve.
On est dans un poulailler de poules pondeuses en agriculture biologique qu'on a monté il y a maintenant 3 ans et demi sur le plateau au-dessus de Fismes. On a en tout 24 000 poules. Donc ça peut paraître énorme, mais en fait les poules sont divisées en 8 lots de 3 000 poules, ce qui nous est imposé par le cahier des charges en agriculture biologique. Les poules sont bien séparées, elles ne se voient pas. Et à l'extérieur, on a un parcours en tout de 9 hectares 6, ce qui correspond à 4 mètres carrés par poule sur la partie extérieure.
Il y a aussi des haies, tout est pensé pour leur bien-être et puis pour le développement durable.
Tout à fait, c'était un champ à l'époque quand on a récupéré cette parcelle pour monter le poulailler, donc il n'y avait rien du tout. On a planté du coup les premières haies il y a 4 ans, pour faire des haies notamment coupe-vent, parce que comme on est sur le plateau, on a un gros vent dominant. On a également mis ce qu'on appelle des haies peignes, donc c'est des haies qui vont venir perpendiculaires au bâtiment, le plus près possible pour encourager les poules à sortir, parce qu'il faut savoir que les poules sont un petit peu peureuses et qu'elles n'aiment pas quand elles sont complètement exposées et dévoilées au grand air. Elles aiment bien être sous un abri couvert. C'est pour ça qu'on a également planté 400 arbres qui vont les inciter à sortir et à aller se réfugier à l'ombre, notamment des rapaces ou des choses comme ça qui peuvent leur faire peur. Et on a pour projet de mettre des petits abris en panneaux photovoltaïques, ce qui permettra notamment de leur faire des abris donc pour qu'elles puissent sortir, se réfugier, et nous en parallèle de produire de l'énergie, puisque la période où on consomme le plus c'est en été en fait, pour ventiler le bâtiment, donc simplement amener de l'air pour encore une fois le bien-être des poules et que la température ne monte pas trop. Donc c'est une corrélation corrélation parfaite entre production solaire la journée en plein été et la partie ventilation, la plus grosse demande électrique du bâtiment l'été.
Comment ça s'organise là, autant de poules qui pondent autant d'œufs ?
Dans le bâtiment, il y a ce qu'on appelle une volière, c'est une structure métallique où les poules vont pouvoir retrouver leur aliment, l'eau, mais également des petits nids, ce qu'on appelle nous les nids, des pondoirs où là elles vont pondre. Ces nids sont un petit peu penchés et comme ça les œufs vont rouler sur des petits tapis et nous tous les matins on actionne en fait ces tapis qui vont nous ramener l'ensemble des œufs à l'avant du bâtiment et là nous tous les matins on va les trier et ensuite on va les palettiser pour partir chez notre acheteur d'œufs. Mais il y a également toujours des poules un petit peu capricieuses, hein, comme partout, qui veulent pas pondre au bon endroit. Et donc ça, tous les matins, nous, on fait un tour du poulailler où on ramasse les œufs qui auraient pu être pondus ailleurs.
Le nourrissage se fait de manière automatique, c'est à volonté? Comment ça se passe?
Nous, on est en agriculture biologique, donc elles mangent de l'aliment uniquement bio. Ça se fait de manière automatique. Donc nos poules se réveillent environ vers 6h le matin. Donc là, on a ce qu'on appelle le premier tour de chaîne. Donc on va retrouver et de l'aliment grossier, donc des grains entiers, de maïs, de blé, etc. Et une poudre un petit peu plus fine, où là on va retrouver notamment des minéraux. Et donc sur le premier tour du matin, on va vraiment les encourager à faire ce qu'on appelle le vide de chaîne, donc à vider la gamelle pour qu'elles aillent aussi manger la poudre plus fine où se retrouvent tous les nutriments pour eux. Et ensuite, donc à partir de fin de matinée ou début d'après-midi, l'aliment est distribué à volonté pour nos poules.
Et les fientes servent ensuite à fertiliser les plantations, les productions de la ferme. Depuis Blanzy, les Fimes et ce poulailler, donc à 4 km de Fimes, merci Margot Ferté.
Bonne journée.
Écoutez ici la nuit et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Touraine.
Quand j'étais petit, j'étais malade en voiture. Donc même si on partait tôt le matin, j'avais pas d'autre choix que de regarder la route. Et c'est comme ça que je me suis un peu intéressé à l'environnement routier, à tout ce qui se passe autour des routes.
Ici Touraine, les gens d'ici.
Bonjour, Laurent Carré, j'ai 54 ans. Je suis professeur d'histoire géographie au Collège de Descartes. Je suis président de l'association Nostalgie, une association qui milite pour la sauvegarde du patrimoine et la mémoire de l'ancienne route nationale 10.
Je crois qu'on a là aujourd'hui la définition du prof cool. C'est celui qui arrive encore en 2025 en deux chevaux sur le parking du collège et qui met de l'humain avec un grand H dans toutes ces histoires.
Je suis né moi-même un peu par accident sur les bords de la Nationale à Sainte-Maure-de-Touraine. Et moi, l'attachement me vient du fait que j'ai grandi devant une agence Citroën. Ma mère allait souvent me rechercher dans le garage, ramener les catalogues que je ramenais de chez moi, donc je pense que ça vient de là.
Vous êtes une des rares personnes pour qui le mot bouchon ne fait pas tellement peur.
Non, voilà, enfin, même jusqu'à, on pousse le vice jusqu'à en réorganiser. Depuis 2013, on organise à Sainte-Maure-de-Touraine le bouchon de la Nationale 10. La Nationale 10, c'est la route qui fait Paris, Bordeaux, Espagne. 765 km de bitume. En Touraine, c'est vraiment une colonne vertébrale du département puisqu'elle la traverse quasiment, elle la coupe en deux, pratiquement moitié-moitié depuis Château-Renaud jusqu'au sud de Sainte-Maure.
On pose les cartons, les albums photos, petit tour du département dans les années 50, 60, 70 avec toutes les photos, toutes les cartes postales.
Le cocardier dans les années 50 était tenu par un cuisinier humoriste qui avait dressé un petit coq qu'il avait sur l'épaule. Là par exemple on est à Ville-Domé, à la Grand-Vallée, Pierre de Tours, la Cocotte Minute, le garage Citroën, le policier monté sur cette plateforme, la grillade. Elle a brûlé très peu de temps après son ouverture.
Pas drôle vu le nom.
Et en plus...
Alors l'incarnation concrète de cette passion pour Laurent, c'est une station. On monte dans la Dodoche, direction Ozo.
On est au lieu dit Bellevue. Voilà pourquoi on l'appelle la station Ozo Bellevue et on est sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. Premier but, ça a été de la sauver cette station. On a tous reconnu le caractère patrimonial exceptionnel de l'architecture. Chaque fois, je suis fier. C'est grâce à l'association qu'on a fait bouger un petit peu les
retour
choses.
Retour à la belle époque, Laurent, sans ceinture, sans limitation de vitesse. Vous le savez, hein, le bonheur des uns.
Et avoir une caravane ou une vieille deux chevaux devant soi quand on avait une voiture plus puissante.
Et le malheur des autres.
C'était une vision d'horreur, quoi.
À vous de lui envoyer vos souvenirs et vos histoires pour décortiquer tout ça. Il saura prendre le temps.
Vous prenez l'autoroute ou pas ?
Très rarement. Je veux profiter du paysage, je veux m'arrêter où je veux, quand je veux. Le voyage ne commence pas à destination, il commence quand je monte dans ma voiture.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Besançon.
d'ici Besançon,
Louis Paton,
ici Matin.
À 7h40, ce qu'on vous propose du lundi au vendredi, c'est de prendre une nécessaire minute comtoise avec Arnaud Fromage. Bonjour Arnaud.
Bonjour Loïs.
Oh là là, dis donc, quelle voix. Alors si vous avez cette drôle de voix aujourd'hui, c'est parce que vous vous transformez en ménestrel ce matin pour nous raconter une histoire insolite qui s'est déroulée il y a un petit peu de temps dans le pays de Montbéliard.
Oyez, braves gens, ouvrez grand vos esgourdes pour ouïr l'histoire que je vais vous conter, elle est lourde. Elle commence lorsqu'un matin, Laetitia et Ghislain aperçurent dans un champ un humble marcassin. Fille de cela, se dirent nos Montbéliardais qui poursuivirent leur chemin matinal. Mais de retour des emplettes, les bras chargés de casse-dalle, ils constatèrent que l'animal était toujours là, à glandouiller. Se serait-il perdu? Était-il abandonné? Nos héros s'approchèrent d'un pas décidé. Le marcassin ne semblait guère apeuré et le grain que Laetitia lui offrit fut bien vite dévoré. Pour protéger le jeune pourceau sauvage, la famille décida d'en opérer le sauvetage. Leur jeune fils lui offrit un patronyme qui rime avec choucroute, et c'est ainsi qu'il fut baptisé Louloute. Lorsqu'ils alertèrent la maréchaussée de la mésaventure qu'ils avaient rencontrée, le sénéchal leur répondit qu'en telle situation, pour le Goret, c'était le trépas ou la libération. Mais Louloute ne pouvait être ainsi livrée à son sort. Hurlèrent en chœur les gardiens du jeune port. Et puis, morte couille, plutôt crevée que de le voir mort, maudirent ceux qui étaient pourtant des carnivores. Eux qui, depuis moultes années, se livraient à l'art de la chasse, savaient qu'à la prochaine battue lancée, ils se prendraient un bon coup de chlasse. Alors, pour éviter que leur ami ne soit ainsi oxy ou ne trépasse sous le carreau d'un gueux, ils le gardèrent un moment chez eux. Mais attendez, ce n'est pas fini. Remémorons-nous les dires des autorités. On ne peut pas chez soi garder un sanglier. Laetitia et Ghislain cherchent depuis un foyer où l'animal pourrait pâturer en toute sûreté. Ils se sont aussi jurés que, de rechef, ils n'estourbiront plus d'autres sangliers. Voilà, gentes dames et bons messieurs, c'était l'histoire des chasseurs facétieux qui se prirent d'affection pour Louloute, le bon sanglier. Et moi j'arrête les rimes parce que ça commence à me gonfler.
Il faut vraiment que ce soit plus souvent comme ça. J'adore quand vous faites de la poésie. Merci beaucoup Arnaud Fromage. La nécessaire minute comtoise avec des histoires certes de sangliers mais plein d'autres aussi hein. Toujours plus intéressantes les unes que les autres à réécouter sur l'application ici. Et puis sur ici.fr Besançon, on compte sur vous pour aller eh bien, soutenir le travail d'Arnaud, parce que tous les jours il faut trouver des anecdotes comme ça. Et franchement c'est pas toujours simple. Arnaud, bon week-end et puis à lundi.
À demain.
Oui, ou plutôt un lundi. Enfin, si on vous retrouve demain, c'est vrai quand même. De 7h, vous le savez, jusqu'à midi. Arnaud qui maintenant vous attend le week-end, le samedi et puis le dimanche pour son émission. Je précise que c'est une histoire vraie qu'il nous a racontée aujourd'hui. Rien de faux. Cette histoire de sanglier. Allez, on...
Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Berry.
Ah, faudra attendre la Saint-Paul pour savoir qui sera le cognon.
Berrichon dans le texte.
Cognon, à rapprocher de quignon, désigne un morceau de pain. Dans le temps, à la messe, on partageait un pain béni qui était offert à tour de rôle par une famille de la paroisse. Celle qui venait d'offrir le pain allait emporter un morceau, le cognon, à celle dont ce serait le tour le dimanche suivant. À Mentoussalon et dans les villages voisins, les vignerons n'ont pas choisi Saint-Vincent comme patron, mais Saint-Paul, célébré le 25 janvier. Eh oui, l'hiver, les gens de la terre ont un peu moins de travail, les jours sont courts et on peut faire la fête. À Mentou, le cognon, c'est celui qui succède au bâtonnier. Dans les années 2000, la fête de Saint-Paul a failli disparaître. Et il a fallu toute la ténacité de Paul Gilbert, qui avait fondé la confrérie en 1950, pour lui redonner de la vigueur. Traditionnellement, Paul Gilbert entonnait la chanson de Mentou à la fin du repas. En 2007, il nous a exprimé sa joie de voir revivre la Saint-Paul. A entonné la chanson, mais il l'a jamais terminée, vu qu'il est passé de vie à trépas en chantant le refrain. Voici les paroles de cette chanson, qui se chante sur l'air de la Charibiaude, dont les paroles sont de Jean-Baptiste Magnon. Et qu'on chante encore à la Saint-Paul.
En Berrichon dans le texte.
Dans notre pays, sans fait de manière, on poste notre vie ben honnêtement. Oh, y a pas besoin de faire une prière pour voir s'amener le pichet de vin blanc. Que ça soit chez Pierre, ou ben chez Paul, ou Bourdin ou ben d'en bas, chez le curé ou chez le maître d'école, en vrais amis, trinquons les gars. C'est comme une tous une autre bonne terre, chant heureux tout en travaillant. J'en ai des filles, qu'à son genre, t'es fier. Du beurre, du blé, des gavaillants, et poum des cravères et du bon vin blanc. Si vous passez par Mentou, venez donc me voir, je vous la chanterai.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Provence.
Moteur !
Allez, on y va !
C'est quoi le texte ?
C'est ma France, hein. C'est moi qui l'a dit tout le temps.
Action !
Je passais le plus clair de mon temps au cinéma Le Star.
Coupé ! Elle était bien celle-là.
Poupou, pidou.
Été 2019, Cédric Jiménez pose sa caméra à Marseille pour réaliser son prochain film, Bac Nord.
On approche du chauffe.
2012, les quartiers nord de Marseille détiennent un triste record, la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la Bac Nord, brigade anti-criminalité, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans ce secteur à haut risque, les policiers adaptent leurs méthodes, franchissent parfois la ligne jaune, jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux.
Vas-y Greg, déclenche.
Ok. Attends, avant, s'il te plaît.
Cinq ans après le succès de La French, Cédric Jiménez est de retour dans sa ville pour son nouveau film. Après La French Connection, dans le Marseille des années 70, cette fois-ci, c'est une affaire contemporaine qui a attiré son attention. Quelques années plus tôt, des policiers de la Bac Nord ont été emprisonnés pour racket et trafic de stupéfiants.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un scandale dans la police à Marseille. Trois fonctionnaires de la BAC sont soupçonnés de corruption et d'extorsion. Ils auraient revendu de la drogue saisie auprès des voyous et monnayé des services.
Cité sous tension, policier à bout, Jiménez connaît bien. Il a grandi dans les quartiers nord. Pour nourrir son scénario, il a pu puiser dans ses souvenirs, mais aussi en partant à la rencontre des habitants et des témoins privilégiés de l'affaire. Les policiers de la BAC eux-mêmes qui accompagnent l'équipe technique et les acteurs Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou tout au long de la conception du film.
Toutes les équipes, on va y aller. Je rappelle, au déclenchement, on ne procède à aucune interpellation. On suit la sacoche pour identifier la nourrice. On trouve le stock, quoi qu'il arrive.
Ici, pas de Marseille de carte postale, mais plutôt l'envers du décor. Le Marseille des revendeurs de cigarettes à la sauvette, des trafiquants de tortues, de la violence au quotidien.
On sert plus à rien. C'est fini. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Ils sont résignés, on les laisse dans la merde, on fait rien pour eux, rien. On peut plus foutre les pieds dans les cités sans se faire agresser, sans se faire cracher dessus, sans se faire traiter de fils de pute tous les jours. Mais il faut pas faire de vagues. Mais on va où là? Je comprends pas en fait, c'est quoi le projet? À quoi on sert?
Après La French, le cinéaste confirme son talent pour le film policier, un genre qui a bercé sa jeunesse et qui atteint là son paroxysme dans une grande scène qu'il souhaitait à l'origine tourner dans la cité de la Castellane, mais où le syndic s'y oppose pour des raisons d'image. C'est finalement à Port-de-Bouc qu'il réalise cette scène d'un quart d'heure qui montre de manière quasi documentaire une intervention dans un milieu très hostile. Un souvenir fort pour François Civil.
Grosse scène d'immersion, où là ça a été un vrai morceau, quoi. C'était un film dans le film où il a fallu passer, je crois que c'était plus de 10 jours,
dans une cité avec les habitants qui nous aidaient, qui faisaient de la figuration. Ça a été à la fois des moments de grande tension de jeu et où vraiment nous, on partait sur des prises parfois, des prises de 10 minutes d'action et où on sent vraiment la pression. Et en même temps, dès qu'on disait couper, bah, tous les gars avec qui on était levaient les bras, trop contents d'avoir participé à ce truc-là et d'avoir participé au processus créatif de ce que c'est un film, le côté collégial. Donc c'était génial et de sentir que il y avait certains des mecs qui étaient là, qui avaient des bracelets électroniques, certains où on savait qu'ils bossaient dans le réseau, qui étaient affiliés à la cité, mais en fait il y avait un côté très je pense très cool pour eux, de déjà qu'on s'intéresse à eux, qu'on les fasse participer et qu'on les considère, quoi.
2 millions d'entrées plus tard, on peut le dire, le Minot des quartiers nord est devenu un caïd du 7e art. Tourne la bague en boucle.
Écoutez Ici la nuit et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Pays d'Auvergne.
Là, je suis dans la rue du Port et je m'apprête à aller prendre un cours de pâte à pizza. Atelier pizza chez Oncle Héraclite. C'est parti. Bonjour, mon oncle.
Bonjour.
Alors, on va apprendre à faire des pizzas, c'est ça?
L'atelier dure grosso modo 1h30, 2h et on va étaler notre temps entre théorie et pratique, grosso modo à 50-50.
Est-ce qu'on apprend à faire voler la pâte sur un doigt?
Non, pas vraiment, parce que ça, c'est joli pour le show, mais ça sert à rien.
Voilà nos apprentis pizzaïolo, Aurélien et Blandine.
Bonjour.
Bonjour Blandine.
Bonjour.
Alors, prête à faire voler les pizzas?
Bah ouais, j'espère.
Qui est-ce habituellement qui cuisine plus quand même?
C'est lui. Ah oui, c'est pas pour rien que c'était pour lui le cadeau.
Oui, oui, ah, c'était un cadeau?
Oui, c'est un cadeau qu'on m'a offert, que j'ai demandé.
Le premier conseil de cet atelier, il n'y a pas de magie. Votre matière première, c'est la farine. Donc si vous prenez une farine de mauvaise qualité, vous aurez un résultat de piètre qualité également.
Comment on choisit une farine de bonne qualité?
Moi, ce que j'entends par farine de qualité, c'est préférablement une farine artisanale. Et c'est encore mieux si elle est locale, ce qui est mon cas ici. C'est une farine qui vient du moulin de la Ribère à Cournon. Donc un moulin à la fois artisanal et local.
Pour une pâte à pizza, plus le thé est bas, finalement mieux c'est.
Ouais, c'est exactement ça, ouais.
Alors moi je fais ça avec de la litière d'habitude.
Alors, laisse-la.
Ah,
je fais ça avec de la litière d'habitude. Je crois pas. Chat,
C'est exactement comme la pâtisserie, ouais. Il faut être précis.
Rigoureux sur les doses.
Exactement, ouais.
Bah c'est bon. 126-01. Blandine?
Oh non, TP de chimie. Parce que là, on discute, mais...
Tu vois, tu veux le passer comme moi.
Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pétrir. La seule chose que je vous demande, c'est on pétrit toujours à une main. On garde toujours une main propre au cas où. Okay. Et la deuxième chose, ça va être de venir, une fois que vous avez une pâte à peu près homogène, de venir rabattre un petit peu le pâton sur lui-même. Quand vous êtes en train de faire votre pétrissage, vous êtes en train de faire une chose très importante, c'est que vous êtes en train de structurer votre réseau gluten.
Ouais, la mienne est plus ratée.
Bon alors, quelle pizza on va faire?
Moi j'ai toujours un faible pour les chèvres miel, donc je pense que ça va partir sur une cabrette.
Moi je vais rester sur un grand classique, ce sera la reine.
On va faire plaisir à Patricia, si jamais vous voulez la faire
tourner. Quand même, je suis pas venue pour rien.
La pomme, comme ça, et hop.
Là on est dans le clan pizza trottoir.
Ah ouais, trottoir épais, effectivement.
Trottoir épais. Ouais.
En fait, moi j'ai une mie qui est assez dense et assez structurée, avec un trottoir justement.
Très boulanger, quoi.
Voilà, exactement.
Il y en a une qui plaint pas la crème là-bas au fond.
Non.
Bah là, on fait vraiment sa pizza. Voilà. Là, pour le coup.
Là, c'est de l'amusement.
On peut prendre le supplément chez Bakwa à 1€. Hop, ouais. Là, on peut le prendre.
Avant cet instant.
Magique.
Magique. Une vraie pelle de pizzaïolo, mettre sa pizza dans un vrai four de pizzaïolo, c'est là quand même qu'on ressent une petite émotion.
Une petite pression, surtout. Parce qu'il faut pas faire tomber sa pizza, faut pas péter le four.
Ce serait dommage avec tout ce boulot. Oh là là, ça, c'est joli, plaisir, là, ça montre. Regardez-moi ce chef-d'œuvre.
Super vite.
Elles ont des beaux trottoirs.
Ah oui. Et ça fait bleu, 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 bleu.
Bon, allez, je vous laisse sur ce.
Ah oui.
Ici. Local, musique et bonne humeur.
Thank you.
La nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Picardie.
Ici Picardie, tous les jours, propose un billet d'humeur de l'autrice picarde Karen Ponte. Karen Ponte s'éparpille chaque jour. Bonjour Karen.
Bonjour. Alors, au quotidien, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des bricoles qui sont hyper agaçantes. Par exemple, vous savez, ce petit bout de scotch qu'on n'arrive jamais à trouver sur le rouleau, ah oui, alors qu'on a besoin de scotcher quelque chose.
Oui.
Je pense qu'on est tous passés par ce moment où on retourne le rouleau sans cesse pour essayer de trouver ce petit bout sur lequel tirer. Et niveau rouleau, ne parlons pas évidemment des rouleaux de films alimentaires qui se déchirent n'importe comment jusqu'à ce que en colère, on le fout à la poubelle, oui, tellement on en a marre. Mais s'il y a une chose qui m'horripile plus que tout ces derniers temps, ce sont les bouchons de bouteilles qui désormais, vous savez, sont accrochés au rouleau quand on les ouvre. Ouais. Alors, qui a eu cette idée, hein? Je pose la question. Certainement pas quelqu'un qui boit du Yop.
Ouais.
Parce que quiconque boit du Yop sait qu'il y a toujours du yaourt dans le bouchon fin. Parce qu'on secoue la bouteille, évidemment, avant de boire. Ouais. Résultat, maintenant, avec ce bouchon qui reste accroché, eh ben, on s'en met partout. Et s'il n'y avait qu'avec le Yop que ça posait problème, mais non, avec n'importe quelle bouteille, ce bouchon ne se remet jamais du bon côté, il s'ouvre pas suffisamment, du coup, on s'en met plein la bouche, voire sur le t-shirt.
Voilà.
Bref, je pense que l'ingénieur qui a eu cette merveilleuse idée est sans aucun doute la réincarnation d'un chameau, hein, qui n'a jamais fréquenté de bouteille de sa vie. Et il est même sans doute de la même famille de celui qui s'occupe des ouvertures faciles des paquets de jambon fin. On doit vraiment se marrer d'ailleurs, hein, dans le repas de famille.
Oui.
Je vous dis à demain et d'ici là, rappelez-vous qu'être focus c'est bien, mais qu'être éparpillé c'est encore mieux.
Merci Karen. L'autrice picarde Karen Ponte, qu'on retrouve chaque matin du lundi au vendredi sur Ici Picardie. Karen Ponte qui est aussi sur notre site ici.fr.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Auxerre.
Itinéraire bis, cette semaine, je suis à Vézelay. Je me suis arrêtée aujourd'hui dans un lieu que j'aime beaucoup, ici à Vézelay. C'est peut-être l'un de mes lieux préférés. C'est l'ermitage de la Cordelle. Frère Eric, bonjour.
Bonjour.
Cet ermitage de la Cordelle, est-ce que vous pouvez nous le présenter? C'est un ermitage qui remonte au XIIe siècle, c'est ça?
Au XIIIe, au XIIe, c'était la construction de la chapelle Sainte-Croix, hein, pour commémorer la croisade de Saint-Bernard, la prédication de la croisade par Saint-Bernard, en 1147. Et puis en 1217 sont arrivés les premiers franciscains qui arrivaient d'Italie, qui se sont installés en France, et ça a été à Vézelay. Ils ont demandé à pouvoir s'installer auprès de la Cordelle, où ils ont construit un couvent qui a duré, qui a été déconstruit, reconstruit. Et puis les frères sont partis à la Révolution, et on est revenu en 1949. Et depuis ce temps-là, il y a eu longtemps un frère ou l'autre qui vivait seul en ermitage et qui accueillait d'autres retraitants. Et puis après, à partir de 1993, une petite communauté de quatre frères qui a vécu ici et qui a assuré beaucoup de charges pastorales dans les paroisses, à la prison, à l'hôpital. Et puis depuis 9 ans à peu près maintenant, on nous demande de centrer le lieu, enfin de reprendre ce lieu autrement, c'est-à-dire de réhabiliter un espace d'ermitage, donc de vie un peu plus en retrait, en silence, pour nous. Et puis pour des gens qui aimeraient venir vivre cette expérience, hein, de déployer une dimension écologique aussi. Voilà. Puis on découvre aussi qu'il y a besoin de beaucoup d'accueil ici, puisque beaucoup de gens passent à Vézelay. Beaucoup de gens aiment la Cordelle. Et donc on essaie d'être, comme on peut, disponible aux gens qui viennent aussi. Voilà. C'est un lieu de fraternité.
Le silence qui est perturbé en ce moment par quelques travaux, frère Eric.
Oui, des travaux pour permettre justement à la fois de tenir cette dimension. Bon, déjà d'avoir des bâtiments qui soient quand même un peu plus salubres, on pourrait dire. Voilà, ça fait partie aussi d'un projet écologique. Et puis, de pouvoir dissocier les lieux, hein, d'avoir vraiment un lieu d'accueil avec la chapelle qui est ouvert à tous, un lieu d'ermitage qui permettra d'accueillir des personnes pour vraiment vivre un temps de retrait et de silence. Puis donc une construction qu'on est en train de faire qui sera le lieu d'accueil, un peu le sas entre l'intérieur et l'extérieur, où on pourra accueillir un petit groupe, des personnes, et sans pour autant qu'ils entrent dans l'ermitage.
Faire des travaux, ça coûte cher. Est-ce que vous avez besoin encore de dons pour réaliser tous ces travaux ici à l'ermitage de la Cordelle?
Oui, oui, on a besoin. Hein. C'est un gros projet. On a choisi de tout remettre en état pour que ce soit bien fait, fait une fois pour toutes, entre guillemets, pour de nombreuses années. Voilà, donc et c'est des amis à nous, en fait, des laïcs, qui ont dit, mais ce projet, il est beau, il faut en parler, il faut motiver les gens, donc on va aller chercher l'argent. Donc on est reparti à la quête. Et on est aujourd'hui, ben voilà, on essaie de motiver les gens, leur présenter les atouts et l'importance de ce projet. Le projet des bâtiments, mais au-delà des bâtiments, bien sûr, c'est tout ce qui s'y vit. On a une newsletter qui permet d'avoir les nouvelles régulières du projet, et puis on accueille les dons qui viennent avec plaisir.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Mène.
L'atelier Fernand Robert, le temple du chapeau en Sarthe, un atelier d'excellence qui fournit les plus grandes marques de luxe. Mais comment ça fonctionne? Quelle machine et quel savoir-faire? Je vais vous emmener dans les coulisses d'un atelier de fabrication de chapeaux. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous les ateliers Fernand Robert. Direction le 36 rue de Carnac à Coulaines, j'arrive sur un petit parking et j'ouvre les portes de l'atelier. Une femme m'accueille.
Bonjour, bienvenue aux ateliers Fernand Robert.
C'est Axelle Jarosset, la directrice des lieux. Elle est en charge de l'atelier depuis 5 ans, mais c'est une histoire de plus de 120 ans qu'elle a pour mission d'entretenir et de continuer de développer.
Oui, absolument. Vous êtes ici dans un atelier de modiste où on fabrique des chapeaux grâce à des machines qui sont elles-mêmes centenaires, avec lesquelles on travaille le feutre, la paille et puis différents matériaux naturels pour notre clientèle locale et internationale. On a même travaillé pour le roi du Maroc, vous voyez, donc c'est la princesse de Thaïlande.
Et bien souvent, c'est surtout pour les cérémonies de mariage que l'atelier travaille avec des clients de Paris, d'Angers, de Tours qui viennent directement sur place pour ça. Mais autrement, l'atelier s'active aussi dans des domaines bien variés, cinéma, palace, spectacle, mode de luxe ou encore cirque. Tout est possible.
On a ici 350 moules de formes différentes, dans des tailles différentes.
Et avec une variété de matières, feutres ou pailles, de toutes les couleurs et toutes les qualités.
Tellement de sortes de chapeaux que tout le monde peut y trouver son compte.
Des chapeaux qui passent d'abord tous par la main et les machines de Xavier David, le chapelier. Ces fameuses machines de 1905 qu'il a appris à dompter sur le terrain. Des belles machines, encore joliment entretenues et peintes de vertes, avec un système mécanique qui est encore aujourd'hui inégalé. Le moule chauffe par en haut et par en bas, au gaz. On place le feutre au milieu et c'est parti.
Et par un jeu de pédale, je peux bloquer le feu.
Après cette étape du moulage, Xavier taille et nettoie avant de passer le relais à ses collègues de la couture, à la main et à la machine. La dernière étape, c'est Mirella qui s'en charge. Elle gère toutes les finitions.
Donc je commence avec préparation d'extérieur. Le nœud, le galon, l'intérieur, toute la finition, c'est moi. Je fais tout, et même le dressage.
Une rigueur et un savoir-faire reconnus par le cinéma, puisqu'on peut voir sur grand écran nos chapeaux sartois.
C'est vraiment une fierté pour nous, comme quand on a vu dans le film Astérix, par exemple, donc pour les petits chapeaux chinois. Ils sortent de l'atelier, donc c'est vrai qu'on est tous allés au cinéma pour aller voir le film.
Alors si le monde du chapeau vous intéresse et que vous voulez profiter de la qualité à prix réduit, sachez que c'est possible.
Oui, tout à fait. On ouvre les portes de notre atelier du lundi au jeudi pour la clientèle local, donc les gens qui veulent venir acheter un chapeau, ou ça peut être aussi un béret, un bonnet.
Ou chapeau de mariage, vous pouvez en tout cas soit venir sur place, ou faire des demandes particulières si vous le souhaitez également par téléphone. Dans tous les cas, les ateliers Fernand Robert ont encore de beaux jours devant eux, et sans conteste, c'est un savoir-faire testé et approuvé par Ici Mène.
Ici.
Je me retrouve solo, sous l'eau. Je tourne en rond, j'ai peur de demain. Plus rien n'est beau, la poule au vent tous les matins. J'ai plus ce que j'aime, j'ai plus ce que je porte. Tu dis que je suis folle. Je sais pas si je t'aime, je sais pas si je tourne bien. Je me rends pas belle au quotidien. Tu prends mes rêves, tu passes de tout à rien. Et moi je sais pas si tu te souviens. J'avais la dalle, j'avais du cœur. Je chantais seule durant des heures. J'avais pas besoin que quelqu'un me rappelle combien c'est dur. J'avais pas de mal avec mes sœurs. Pas de jeu d'acteur, puis tu t'imposes avec ces lois qui nous murmurent. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. T'as tout compris, je veux plus qu'on se prenne la main. La tienne me tirait tellement loin. courir, nager loin de tes eaux usées. Je vais pas mentir, sans toi aussi je peux m'amuser. Je vais m'inventer, je vais m'en sortir, faire de mon mieux. D'ailleurs je sais que tu finiras par dire que c'est moi qui ai changé. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu viens, tu pars. Tu me jettes, tu me gardes, je te gère. Problème, problème, dans ta tête ça tourne pas rond. Problème, problème, t'as un problème, problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, problème, t'as un problème, problème. Dans ta tête ça tourne pas rond. Problème, problème, t'as un problème, problème. Tu viens, tu pars, tu me jettes, tu me gardes, je te gêne. Tu viens, tu pars, tu me jettes.